Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
La famille, elle nous servira de fil conducteur dans la première partie de ce magazine à l'occasion du pèlerinage des familles sur la tombe de Saint-Pierre et de l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la famille. Nous reviendrons ainsi sur le discours du pape et nous entendrons deux témoignages, celui d'une Québécoise laïque ainsi que l'analyse d'un consulteur du Conseil pontifical. Lille, en fait, la capitale du nord de la France, célèbre le centenaire du diocèse créé le 25 octobre 1913 par Saint Pie X. Pendant 3 ans en tout, les fidèles se sont préparés à ce grand moment. Madagascar aux urnes, les Malgaches élisent leur président, un moment crucial dans l'histoire de ce pays, paralysé par une crise politique sans fin. Nous entendrons le directeur de la radio, Don Bosco, à Tananarive. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. C'est ce samedi, le grand jour du pèlerinage des familles sur la tombe de Saint-Pierre organisé dans le cadre de l'année de la foi. À la veille de cet événement, le pape François a rencontré ce vendredi midi au Vatican les participants de l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la famille qui est à l'origine de cette initiative. Ce fut l'occasion pour lui de revenir sur 3 points essentiels à ses yeux. Le fait que la famille est une communauté de vie qui a une existence autonome, qu'elle est fondée sur le mariage et que l'enfance et la vieillesse sont deux périodes délicates. Les précisions de Antonino Gallofaro.
La famille est une communauté de personnes. Reprenant les paroles de Jean-Paul II, le pape François a tout d'abord rappelé ce qu'était la famille, le centre naturel de la vie humaine, faite de personnes qui aiment, dialoguent, se sacrifient pour les autres et défendent la vie, surtout les plus fragiles. Elle est si importante qu'on pourrait dire qu'elle est le moteur du monde et de l'histoire, lieu où l'individu croit, prend conscience de sa propre dignité et celle de chaque personne, surtout celle qui est malade, faible ou marginalisée. Cette famille, elle est fondée sur le mariage, l'amour entre époux et familial révèle clairement la vocation de la personne à aimer de manière unique et pour toujours. Un amour qui permet d'affronter les sacrifices et les crises que rencontrent tous les couples. Ces moments difficiles sont autant de passages pour grandir dans le bien, la vérité et la beauté. Ce mariage, sacrement de l'Église, est pour le pape une expérience de foi en Dieu et de confiance réciproque, de liberté profonde et de sainteté. Dans cette famille, il y a des enfants et des personnes âgées. Le pape François est ainsi revenu sur un thème qui lui est cher, ne pas abandonner ces deux pôles de la vie qui sont aussi les plus fragiles. Une société qui abandonne les enfants et marginalise les anciens coupe ses racines et assombrit son futur. C'est pourquoi prendre soin des petits et des anciens est un choix de civilisation. Une famille chrétienne se reconnaît donc à la fidélité, à la patience, à l'ouverture à la vie et au respect aux personnes âgées. Le pape a donc invité les participants à proposer à tous la beauté du mariage et de la famille illuminée par l'Évangile et à être proche de celles qui sont brisées, qui n'ont pas de toit ou de travail, et à être proche des couples en crise ou à ceux qui sont déjà séparés.
Antonino Gallofaro, qui a rencontré un des participants à l'assemblée plénière commencée il y a 2 jours, le père Brice de Malherbe du diocèse de Paris. Pour lui, la crise de la famille est avant tout une crise de la société occidentale d'aujourd'hui.
La famille apparaît comme une valeur sûre, une valeur refuge. Il y a des grandes attentes sur la famille. Et en même temps, c'est là le paradoxe, il y a tant de familles brisées. Par exemple, en France, 28% des personnes vivent dans une famille réduite à une personne, c'est-à-dire dans une situation de célibat choisie ou subie. Cette prégnance d'un individualisme qui se traduit dans les faits, alors même que la famille reste une valeur très prisée. C'est là où est le paradoxe. Nous voyons et nous sommes inquiets de ce phénomène qui va croissant, de femmes qui se trouvent seules à élever des enfants, et donc à la fois elles comme leurs enfants souffrent du manque d'une présence masculine et paternelle pour différentes raisons, et d'une part souvent tombent dans une certaine pauvreté, et d'autre part cette situation est bien sûr source de nombreux déséquilibres et sont un obstacle à l'épanouissement, soit de ces femmes, soit de leurs enfants.
La famille doit revenir au centre de l'intérêt politique, culturel et économique. Est-ce que ça veut dire que la famille n'est plus au centre de l'intérêt de la société, si on va jusqu'au bout du raisonnement ?
C'est un peu le prisme des sociétés occidentales qui, semble-t-il, n'ont pas pris conscience ou ont perdu conscience de tout ce que la famille peut apporter à la culture, à la politique, à l'économie. Aujourd'hui, nous avons l'impression que dans un pays comme la France, les familles subissent une pression fiscale plus forte dans le fait qu'on rogne sur la politique familiale positive que nous héritons dans notre pays des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple.
On l'a dit, cette crise révèle plutôt de la société occidentale. Est-ce que cette crise, d'une manière ou d'une autre, touche tout le monde ?
Les représentants africains du Nigeria, du Congo, ont pris la parole à la fois pour dire mais comment est-ce que vous, dans les pays occidentaux, vous pouvez nous aider à éviter les crises que vous traversez, et à la fois pour dire il y a quelques éléments importants qui commencent à émerger dans les pays africains qui sont comme des antidotes à cette crise de la famille, en faisant attention à quelques évidences comme le fait qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour grandir, tout ce qu'une famille unie peut apporter à la société. La réaction de plusieurs occidentaux a été de dire à nos frères africains, l'Afrique a les capacités de répondre à cette crise qui maintenant menace aussi les pays d'Afrique. Nous avons senti très fortement l'idée que l'Afrique doit trouver en elle-même les propres ressources et peut et a les ressources pour maintenir une vision de la famille qui soit vraiment au service de ses membres et de la société.
Donc la crise, pour ceux qui la vivent et ceux qui la craignent au centre de cette assemblée plénière.
Surtout, la conviction que, quelles que soient les difficultés que la famille traverse aujourd'hui, n'oublions pas que le mariage est une réalité que nous héritons du dessein de Dieu, que même le péché originel et le déluge n'ont pas réussi à détruire. Donc ne nous affolons pas, soyons vigilants bien sûr, agissons pour résister aux forces qui effectivement veulent détruire la famille et maintenons ce témoignage de la bonne nouvelle de la famille pour tous.
Le père Brice de Malherbe, consulteur du Conseil pontifical pour la famille. Voyons maintenant ce qui se passe sur le terrain, plus précisément au Québec. Gilène Morin, membre du Conseil pontifical de la famille, est venue apporter son expérience à l'occasion de l'Assemblée plénière. La crise familiale, elle la croise tous les jours.
On rencontre de plus en plus de familles qui sont éclatées, des familles qui sont rendues au deuxième, troisième, quatrième mariage et nous arrivent en paroisse pour vivre un sacrement ou une démarche catéchétique. Alors nous, on doit ramer, on doit se faire proche d'eux et les accueillir. Les gens font face à des échecs, mais ils n'ont pas choisi l'échec. Il y a une grand-mère qui nous disait dans un atelier de grands-parents cet automne, « Moi, je trouve ça difficile, mon garçon s'est séparé. » Il change de conjointe tous les 3 mois. Elle, comme grand-mère, elle voit les enfants qui sont tristes parce qu'après 1 mois de fréquentation, il y a une nouvelle femme qui rentre dans la maison. Au bout de 2 mois, ça ne fonctionne plus. Il en trouve une autre tout de suite. Au bout d'un mois, elle entre dans la maison, elle s'installe. Et les enfants doivent continuellement s'adapter. Alors, les enfants sont eux aussi en crise. Ils sont le symptôme d'une famille qui est blessée. Le bonheur du parent passe avant le bonheur des enfants.
Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous allez apporter?
Un problème qui est assez évident quand on parle du couple, on parle du mariage. On ne parle plus de la vocation du mariage. Les diocèses, il n'y a plus de prêtres. On investit dans la vocation religieuse. Mais la vocation du mariage est dans le fin fond d'un tiroir, bien au loin. On l'abaisse à dire « nous faisons de la pastorale familiale ». Pourtant, la vocation, c'est un appel de Dieu. Et les couples aujourd'hui, pour donner du sens à leur mariage, il faut remettre le mot « vocation du mariage ». C'est un appel, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus profond que juste une liaison, que juste de « oh, je vais choisir parce qu'il est bien beau, il est fin, il y a de l'argent, il y a une belle job, il y a une belle prestance ». Non, il y a quelque chose de plus grand. Ça, il faut le remettre à l'agenda des diocèses, des paroisses. Mais en premier, je pense qu'il faut convertir nos gens des équipes pastorales à dire, oui, la vocation du mariage, C'est un appel de Dieu. Elle est aussi grande que la vocation religieuse, parce que s'il n'y a plus de couple, ben c'est eux qui font les enfants, puis éventuellement, peut-être un jour des prêtres. Jean-Paul II l'a très bien dit, la famille est malade, la vocation religieuse sera malade.
Voilà, c'était Gylaine Morin, venue du Québec à l'occasion de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour la famille. La vie et la mort font partie des réalités qu'affrontent les membres d'une famille. La Conférence des évêques catholiques du Canada a ainsi ajouté une nouvelle section sur la page « Vie et famille » de son site internet concernant l'euthanasie et le suicide assisté. L'objectif est de donner accès et de faire connaître les ressources relatives à cette question importante qui occupe une grande place dans les nouvelles à travers tout le Canada. En Europe, cette fois, c'est la question de l'avortement qui préoccupe l'Église. Selon la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, la COMECE, l'Union européenne n'a pas à interférer dans les législations nationales en la matière. Or, un rapport d'initiative du Parlement européen sur la santé, les droits sexuels et génésiques, qui inclut l'avortement, outrepasse les compétences de Bruxelles. La COMECE rappelle que dans de nombreux États membres, l'avortement est illégal, en considération de la dignité humaine et partant de la conviction que le droit à la vie est absolu. L'avortement y est interdit par la loi. Pas question donc pour la Commission des épiscopats européens de s'immiscer dans ces affaires. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce thème général de la famille. Ce samedi, à l'occasion de la rencontre des pèlerins avec le pape Place Saint-Pierre, la rédaction francophone de Radio Vatican se mobilise. Outre celles et ceux qui nous écoutent via Internet, les pèlerins présents à Rome pourront suivre la cérémonie en direct sur la fréquence 103.8 de 14h30 à 18h30. Restons un moment au Vatican où ce vendredi matin, le pape, lors de la messe, a invité les fidèles à avoir le courage devant le prêtre qui nous confesse d'appeler nos péchés par leur nom sans les cacher. Le pape François a ainsi consacré son homélie au sacrement de la réconciliation. Se confesser, a rappelé le pape, c'est aller à la rencontre de l'amour de Jésus avec la sincérité et la transparence des enfants en accueillant la grâce sans honte. Peu après, le pape François a reçu le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Basogo, présent au Vatican à l'occasion de l'échange officiel des instruments de ratification d'un accord entre le Saint-Siège et son pays, accord qui scelle les bonnes relations bilatérales existantes, reconnaît la personnalité juridique de l'Église et de ses institutions. L'accord concerne également le mariage canonique, les lieux de culte, les institutions éducatives, l'assistance spirituelle aux fidèles catholiques dans les hôpitaux et les prisons. Un évêque qui ne prie pas n'est qu'à la moitié du chemin et finit dans la mondanité. Le pape a adressé cet avertissement lors de la messe qu'il a célébrée jeudi après-midi en la basilique Saint-Pierre pour la consécration épiscopale de deux collaborateurs de la secrétaire d'État qu'il a lui-même nommé nonce apostolique, Jean-Marie Spech, nonce apostolique au Ghana, et Gianpiero Gloder, président de l'Académie pontificale ecclésiastique. Il y a tout juste 100 ans, le 25 octobre 1913, Pie X détachait l'île de l'autorité de l'évêque de Cambrai et l'érigeait en diocèse. Sous l'impulsion de Mgr Laurent Ulrich, évêque de Lille, le diocèse s'est préparé pendant 2 ans à la célébration de ce centenaire. 3 années en tout, jalonnées de nombreux événements et rencontres au cours desquels les fidèles ont pu ensemble parcourir l'histoire de leur jeune diocèse et débattre sur la place du chrétien au sein de la société, une thématique centrale dans un diocèse marqué par une forte tradition sociale. Les journées du 25, 26 et 27 octobre clôtureront donc ces 3 années jubilaires. Le point d'orgue de ce tridome festif sera la messe du 27 octobre, présidée par le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et envoyé spécial du pape pour l'occasion, en présence notamment de plusieurs évêques en la cathédrale Notre-Dame de la Traille. Mgr Laurent Ulrich est évêque de Lille, il est aussi vice-président de la Conférence épiscopale française. Il dresse pour nous le bilan de ces 3 années jubilaires.
Quand j'ai proposé de célébrer les 100 ans du diocèse, forcément l'accueil a été mitigé, parce qu'on s'est dit pourquoi fêter un anniversaire, c'est peut-être une façon un peu mondaine de vivre l'Église. Mais j'avais donné 3 thèmes. Le premier thème sur le service de l'autre, le chrétien est un serviteur des autres. Un deuxième thème sur le chrétien dialogue au sujet de sa foi. Et puis le troisième sujet, c'était le croyant, le chrétien, est renouvelé par la vie sacramentelle. Et donc, ces trois thèmes-là ont été, je crois, pris comme des occasions de se renouveler vraiment dans la vie chrétienne. Et j'ai senti, au cours des trois années, un intérêt grandissant pour non pas simplement célébrer un événement et avoir des festivités, mais pour se sentir de nouveau envoyé en mission.
Alors ces années ont été pour vous, pour vos fidèles, l'occasion de reparcourir un peu l'histoire de ce jeune diocèse de Lille. C'est une histoire intimement liée à celle d'une région et de son histoire sociale également.
Oui, tout à fait. La tradition sociale est très fortement ancrée dans ce diocèse de Lille et dans le nord de la France d'une façon générale. On ne peut pas oublier que les premières semaines sociales de France se sont déroulées d'une part à Lille, d'autre part à Lyon. Donc il y a toute une histoire très forte. Les chrétiens qui ont beaucoup marqué ce lieu, qu'ils aient été dans des situations économiques d'être patrons ou d'être employés, ouvriers, ont été très attentifs à faire vivre la doctrine sociale de l'Église, à la développer, à être des acteurs du respect des personnes dans la vie économique et sociale et de la recherche de solutions économiques et sociales qui mettent l'homme au centre. Je crois que le diocèse de Lille, là-dessus, a fortement contribué. La personnalité du cardinal Liénard, pendant 40 ans, a été une grande figure qui a permis à ce diocèse de Lille de grandir dans cette responsabilité.
Des propos recueillis par Manuela Afigi. Avant de se quitter, direction Madagascar, où les citoyens votent pour élire leur président. 33 candidats sont en lice. Ce scrutin a longtemps été repoussé et difficile à mettre en œuvre. L'attente des Malgaches est donc grande. Ils espèrent enfin mettre un terme à la crise politique qui paralyse le pays depuis bientôt 5 ans, comme nous le confirme Jean-Hervé Rakoudzanan, rédacteur en chef de la radio Don Bosco à Tananarive.
Le peuple malgache inspire vraiment la tenue de cette élection pour pouvoir sortir de cette crise qui a enduré 4 ans et plus, et que cette affluence l'a prouvé. Et puis les plaintes émises par des gens qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas de carte d'électeur ou parce qu'ils n'est pas inscrit dans la liste électorale ou pour d'autres problèmes. Il y en a une bonne centaine de réclamations qu'on a pu collecter ici même à l'antenne par des SMS, tout ça pendant la matinée. Cela me paraît significatif quand même comme plainte, comme quoi les gens veulent effectivement vraiment passer à cette phase, cette élection, pour qu'on puisse avoir un avenir meilleur pour notre nation.
Il y a un véritable espoir que les hommes politiques changent, qu'il y ait une nouvelle façon aussi de concevoir la politique, l'avenir du pays.
Si l'on se réfère uniquement aux promesses qu'ils ont pu émettre pendant cette campagne électorale, de la part de ces politiciens, on peut espérer effectivement un changement radical, mais c'est pas la première fois qu'il y a des élections à Madagascar et c'est pas la première fois qu'on les entend parler ainsi. Mais tout dépend de la volonté de celui qui ou celle qui va être élu. Avec cette fois-ci, peut-être, ce qui a changé, c'est plutôt dans la tenue de cette élection, la présence massive des observateurs internationaux, également la présence et puis la mise en place et mise en œuvre de cette commission qui veut être vraiment indépendante, commission électorale. On espère qu'il y aura moins de manœuvres pour falsifier les résultats. Donc, celui ou celle qui va être élu, c'est vraiment celui ou celle qui a été élu par le peuple. Et le problème, c'est par la suite, est-ce qu'il va ou est-ce qu'elle va tenir ses paroles face au peuple, de revendiquer, de faire une sorte de, c'est ce qu'on appelle la redevabilité sociale du futur ou de la future présidente. On dépend vraiment de sa façon, de sa politique de mettre en œuvre tout ce qu'il a émis pendant la campagne.
Des propos recueillis par Hélène Détombe. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure.